La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. Vous le savez probablement et si vous ne le savez pas, je suis heureux de vous l'apprendre, la revue d'Action nationale a 100 ans. Et pour marquer l'anniversaire, elle a décidé de publier un numéro spécial qui refait son parcours et à sa manière propose un bilan du dernier siècle du nationalisme québécois. Pour en parler, je reçois aujourd'hui M. Robert Laplante, qui est directeur de l'Action nationale et qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir à ce micro à quelques reprises. M. Laplante, bonjour.
Bonjour.
Alors, centième anniversaire de l'Action nationale, un anniversaire assez rare dans l'histoire d'une revue. Si je ne me trompe pas, l'Action nationale est une des plus vieilles revues de langue française en Amérique du Nord.
En Amérique du Nord, c'est très certainement la plus vieille. Au monde francophone, c'est la troisième.
Et quand on pense à l'Action nationale et qu'on cherche à la définir à travers le temps, c'est-à-dire aujourd'hui on peut dire que c'est une revue intellectuelle nationaliste qui cherche à penser le Québec dans son ensemble et dans le combat pour l'indépendance, mais si on cherchait à définir l'Action nationale de ses débuts à aujourd'hui et qu'on cherchait à identifier le fil directeur de l'histoire de la revue, qu'est-ce qui caractériserait l'Action nationale?
Je crois que c'est essentiellement un travail de recherche et de réflexion sur les façons de réaliser cette intention qui traverse toute notre histoire, cette volonté d'achèvement. La revue est née dans un contexte très particulier, début du 20e siècle, au moment où le Canada célèbre son 50e anniversaire, où ce même Canada est plutôt content de lui-même. Et les intellectuels qui fondent la revue, évidemment, ne partagent pas du tout ce point de vue. Ils sont convaincus que le Canada a, dans les catégories de l'époque, selon leurs propres mots, trahi ses promesses. Et ils entreprennent, ces intellectuels, de faire non seulement le procès du régime, mais d'interpeller la société canadienne-française pour qu'elle se donne les moyens de s'accomplir. À cette époque, s'accomplir, c'est se faire reconnaître comme peuple fondateur. Les premiers intellectuels de la revue adhèrent globalement à on dit théorie, mais c'était à l'époque largement partagé. Par la suite, on a réalisé que c'était d'abord une théorie et finalement, on comprend maintenant que c'était une fumisterie. Mais à l'époque, donc, c'est un combat pour se faire reconnaître dans cette dualité. Et ce combat est réparti essentiellement entre une volonté de consolider le foyer national, qui est le Québec, et de soutenir et de promouvoir la vitalité des minorités installées dispersées, on devrait plutôt dire, sur le territoire. Alors donc, c'est une volonté d'achèvement qui va, au cours du siècle, progressivement quitter le terrain de la représentation dualiste, quitter le terrain de la représentation minoritaire qui lui était consubstantielle, pour finalement mettre tous ses efforts à penser la nation dans son foyer national et son territoire.
L'Action nationale, en 1917, gâche un peu la fête. Lorsqu'on est dans la commémoration du 50e de la Confédération, il faut chanter les gloires de la Confédération. L'Action nationale gâche la fête. Est-ce qu'elle est seule à gâcher la fête ou est-ce qu'il y a d'autres protestations dans la société québécoise à l'époque sur le bilan à faire des 50 ans du Canada?
Ah, c'est certainement un des plus gros couacs à l'époque. Cependant, le devoir avait lui aussi entrepris de remettre en question certaines des réalisations du Canada. Et c'est beaucoup dans le sillage des combats que va provoquer l'adoption du règlement 17 ontarien qui va bannir, on le sait, interdire l'enseignement du français chez les minorités franco-ontariennes, et en même temps que se dresse aussi progressivement la perception que le gouvernement du Canada gouverne, au fond, en traitant le Québec comme une province comme les autres, ce qui, évidemment, n'est pas partagé par l'ensemble des Québécois et l'ensemble des partis politiques de l'époque. Alors, donc, le couac, cependant, est retentissant dans la mesure où l'Action nationale va être le seul lieu où va véritablement être réhabilité l'idée d'indépendance, qui est en veilleuse depuis la répression de la révolution avortée de 1837. Et, en quelque sorte, cette réhabilitation-là passe par l'ouverture, qui ne sera pas maintenue avec une constance effrénée, mais l'ouverture quand même d'un procès de légitimité sur le régime canadien.
Mais qui va durer environ une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire de 1917 à 1927, il y a une forme de vitalité intellectuelle incroyable dans la revue, et au moment du bilan du 60e, peut-être que du Canada, donc 10 ans plus tard, peut-être que l'idée d'indépendance a terminé son premier cycle dans l'Action nationale.
Oui, jusqu'à un certain point, par la force des choses. Les grandes enquêtes que l'Action nationale mène, c'est une forme qu'elle introduit dans la vie intellectuelle du Canada français.
Notamment de notre avenir politique.
Tout à fait. La revue a publié pendant quelques années, chaque année, un grand dossier faisant le point sur un aspect ou l'autre de la vie de la nation. Ces grandes enquêtes, elle les dresse d'abord pour baliser l'action. Et au fur et à mesure que la revue progresse dans ce travail, un constat s'impose, et il est très angoissant, c'est celui de l'extrême fragilité de la nation. On constate que le peuple canadien-français est massivement prolétarisé, qu'il n'est pas instruit, que sa langue et sa culture sont à ce point bafouées et méprisées que lui-même en doute. Alors, la proposition de l'indépendance va progressivement quitter le terrain programmatique pour passer du côté de l'horizon, du projet, de l'idéal à poursuivre. Guy Frégaud, dans un ouvrage qu'il consacre à Lionel Groulx, résume avec une formule extraordinaire le destin et de Groulx et de cette génération de l'Action française eu égard à l'indépendance en disant « Ils ont pointé un soleil dont ils ont détourné le regard. »
Oui, bien sûr.
C'est une formule magnifique. Mais effectivement, dans les années 30, on va reprendre cette idée de l'indépendance en l'inscrivant plus, je dirais, de façon plus réaliste, si on peut dire, dans une volonté de reconquête. C'est-à-dire que si les années 20, et particulièrement le choc qui va suivre la récession de la Première Guerre mondiale, le choc de ce diagnostic va être relativement digéré dans une période d'intense activité intellectuelle à partir du crack de 1929 autour de ce qui deviendra le programme de restauration sociale. Donc, il y a un grand mouvement d'ébullition intellectuelle pour que la société canadienne-française reprenne ses marques, qu'elle reprenne tant soit peu contrôle de son destin, en prenant acte de ses faiblesses et de ses vulnérabilités. C'est dans ce cadre-là que va être rédigé, à toutes fins utiles, le programme de la Révolution tranquille. Les artisans du programme de restauration sociale et les artisans de la revue, c'est à toutes fins utiles les mêmes, auxquels vont se greffer les jésuites, qui vont être de puissants animateurs du débat, en particulier en prenant appui sur la doctrine sociale de l'Église. Et les nationalistes vont se regrouper autour de cette grande ambition qui donnera naissance d'abord à l'Action libérale nationale et par la suite à l'Union nationale, avec, bien sûr, les déceptions qui vont s'en suivre.
Quand on lit le numéro des 100 ans de la revue, on remarque une volonté donc de ressaisir son héritage intellectuel, d'en faire le parcours intellectuel, d'en ressaisir l'héritage aussi. Et certaines figures émergent, des figures qui sont associées très intimement à ce qu'on pourrait appeler la tradition grouxiste, à la tradition de l'Action nationale, et qui ont compté d'une manière ou de l'autre dans le paysage intellectuel et politique pendant un temps, mais qu'aujourd'hui, ce sont des noms flottants qui nous disent peu de choses. Deux d'entre eux, principalement, François-Albert Anger, à qui un texte est consacré, et Esdras Mainville, qui est une des grandes figures de l'histoire de la revue. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces deux figures qui ont beaucoup compté dans l'histoire de la revue, Mainville d'abord et Anger ensuite? Que représentent-ils dans l'histoire, on pourrait dire, des idées au Québec et dans l'histoire de l'Action nationale?
Il représente d'abord des symboles vivants et inquiétants de notre amnésie collective. Ce sont deux intellectuels qui ont fait des contributions majeures et qui sont, à toutes fins utiles, sortis de la mémoire des intellectuels, non pas de la mémoire historique, mais de la mémoire des intellectuels à tout le moins. Mainville est un autodidacte, un Gaspésien, qui va progressivement se former en prenant appui sur les cours du soir qui lui sont offerts par la toute jeune faculté des sciences sociales et par les non moins jeunes HEC. Il va en devenir d'ailleurs le directeur à partir des années, de la fin des années 20. Mainville est un des artisans de la stratégie de la reconquête économique. Il maîtrise bien la pensée économique de ses devanciers, refuse leur résignation, en particulier celle d'Étienne Parent, et reste convaincu qu'il faut reconstruire ce qu'il appelle l'édifice économique de la nation en partant de ce que le Québec contrôle. Et pour lui, ce que le Québec contrôle dans le cadre du partage des compétences, c'est son territoire, et c'est, bien sûr, la terre. On aura beaucoup pensé que Mainville aurait été un penseur de l'agriculturisme, alors qu'en fait, c'est au contraire, un stratège. Les marxistes diraient que Mainville est celui qui pense la théorie de l'accumulation primitive. C'est-à-dire que il est persuadé que le seul domaine économique que contrôle les Canadiens français, c'est l'agriculture. Et qu'il faut prendre appui sur l'agriculture pour progressivement construire une économie de PME. Il est convaincu que ça ne peut être qu'une stratégie de levier. Pour des raisons qui sont d'ailleurs toujours actuelles, le terroir québécois est tout petit, c'est à peine 2 % du territoire qui est propice à l'agriculture. Il est convaincu que ça ne peut pas suffire, mais que c'est le meilleur moyen. Il va penser donc le développement de cette agriculture comme façon d'élargir de proche en proche le contrôle des Canadiens français.
C'est le point de départ de la reconquête.
Oui, tout à fait. Et en privilégiant deux voies, l'entreprise familiale et la coopération. Il est convaincu que la mise en commun des modestes moyens des Canadiens français est la façon de se donner une économie qu'ils vont contrôler et qui sera inaliénable. Mainville a grandi dans le servage gaspésien. Il sait l'emprise des puissances économiques et il sait la déliquescence culturelle que ça provoque. Et il en est littéralement obsédé. C'est un homme qui est convaincu que la servitude économique est un déshonneur et elle est un affront à la dignité des hommes. Alors, Mainville va travailler d'arrache-pied à formuler des thèse économique programmatique. Pour sortir de la crise de 1929-30, et il va ouvrir de grands chantiers intellectuels, entre autres une grande enquête qui est l'héritière directe des travaux des années 20, une grande enquête qui va appeler les études de notre milieu, où il va faire un véritable travail d'inventaire des ressources et de ce qu'on peut en faire. Ce qui va l'amener à faire, bien entendu, un programme de reconquête de l'hydroélectricité, de la forêt, des ressources fauniques, des ressources minières, et il va faire un travail empirique de description et d'inventaire de ces possibilités. Et il va, d'autre part, travailler à développer une théorie économique de la reconstruction, et c'est dans la colonisation qu'il va placer son laboratoire d'idées.
Est-ce que Mainville aura de l'écho, est-ce que sa pensée va avoir de l'écho des effets dans la vie sociale canadienne-française? Et à quel moment peut-on dire que sa mémoire commence à disparaître, son souvenir commence à disparaître de la mémoire collective?
Alors, son travail aura énormément d'écho dans la société canadienne-française. Mainville est un homme de terrain. Les bûcherons connaissent son travail. Mainville est très engagé auprès des coopératives forestières. Il est un ardent défenseur des coopératives de pêcheurs naissantes. Il est, sur le terrain, véritablement considéré comme, on dirait aujourd'hui, un intellectuel organique. Mais il poursuit un travail institutionnel d'une importance capitale, et c'est lui qui va former François-Albert Anger. François-Albert Anger,
qui est l'autre grande figure,
absolument, et qui va pousser un cran plus loin l'institutionnalisation de l'appareil conceptuel et intellectuel de la stratégie de reconquête économique. François-Albert Anger, à l'École des hautes études commerciales, va mettre en place l'Institut d'économie appliquée, qui va documenter les progrès que font les Canadiens français dans le domaine économique. Et il va s'acharner à déployer un programme de formation pour les entrepreneurs, pour les cadres canadiens français. François-Albert Anger va, à ce moment-là, devenir le mentor d'un jeune homme qui aura beaucoup d'avenir, Jacques Parizeau. Jacques Parizeau, qui fait ses études sous les auspices des HSC et qui va partir faire un doctorat au London School of Economics, sous les encouragements de François-Albert Anger et en lui faisant la promesse qu'il reviendra. C'est tout à l'honneur de Jacques Parizeau parce qu'on sait qu'il aura eu des offres particulièrement alléchantes pour rester en Angleterre. Et il dira à plus d'une reprise que s'il est revenu, c'était d'abord parce qu'il avait donné sa parole. Sa parole à François-Albert Anger, qui comptait sur lui pour poursuivre l'œuvre de théorisation et d'enrichissement de la pensée économique des Canadiens français.
Quand vous présentez François-Albert Anger, vous le présentez d'abord, naturellement, sous l'angle économique. Pourtant, lorsqu'on le lit dans la revue, il a une pensée très, très vaste qui dépasse les seuls enjeux économiques et qui va la prolonger jusqu'à assez longtemps dans l'histoire de la revue. Dans son livre aussi, Pour orienter nos libertés, c'est une réflexion sur la civilisation canadienne-française, comme on aurait dit autrefois, sur la nature du nationalisme. Quels sont les autres aspects qu'embrasse ta pensée dans
François-Albert Anger? C'est un homme d'une grande culture. Effectivement, on le présente d'abord, surtout sous l'angle économique, parce que c'était son point d'ancrage dans sa pratique professionnelle, mais c'est un homme aux horizons très vastes, d'une culture impressionnante. Et François-Albert Anger va beaucoup travailler sur l'intégration de ce qu'on pourrait appeler le projet de société dans le projet de civilisation. Ce n'est pas un homme centré uniquement sur les moyens, c'est un homme qui ne cesse de réfléchir aux finalités et il est complètement acquis à cette idée que le destin de la nation canadienne française est un destin ambitieux. Ce n'est pas l'homme des petits moyens, ce n'est pas l'homme de la du petit pain. C'est au contraire quelqu'un qui va, et en cela il va marcher dans les pas de Mainville, qui va penser que vraiment la culture canadienne-française a quelque chose à apporter au monde et qu'elle est capable et porteuse d'universel. C'est plus facile à dire aujourd'hui. Il fallait avoir une certaine audace intellectuelle pour soutenir cette prétention au moment où les Canadiens français sont encore largement prolétarisés et où le Québec sort à peine de l'indigence. Mais Anger va donc, avec Mainville et quelques autres, on pense entre autres au père Richard Arès, le jésuite, oui, va beaucoup réfléchir à cette dimension de porter à l'universel les ambitions de la société canadienne-française. Ce qui va beaucoup l'amener à réfléchir sur les liens entre la culture, et pour lui, bien entendu, la matrice de cette culture, c'est le catholicisme et ce qu'il aura laissé comme héritage dans, non seulement dans la politique canadienne-française, mais dans la culture elle-même au sens large, des valeurs de solidarité, des valeurs de justice et de partage, mais également, pour lui, c'est le lien à faire entre le harnachement des moyens aux finalités. Alors, il va chercher à proposer des avenues de jonction entre la culture et l'économie. Et pour lui, ça va se faire par la coopération, après un flirt plus ou moins long avec les doctrines corporatistes, avec cette idée que un peuple minorisé et minoritaire aurait tout intérêt à une plus grande cohésion sociale et il la découvre, cette cohésion, dans le corporatisme, vis-à-vis duquel il prendra ses distances ensuite, voyant les dérives européennes, mais il va rester convaincu que la coopération va être le véhicule privilégié pour garder le cap, pour civiliser, si on veut, les puissances économiques et assurer les Canadiens français d'une solidarité organique. Ensuite, bien sûr, ce sera son grand combat. Il y a un lien pour lui entre la langue, la culture et l'économie.
Oui, parce qu'il va être un grand militant du français. Il va jouer un rôle central dans le mouvement Québec-Français.
Absolument. Il est véritablement l'ancêtre de la loi 101. Véritablement.
Et de ce point de vue, est-ce qu'on peut dire, parce que c'est une réflexion qui me vient souvent à l'esprit, que François-Albert Anger est un de ceux qui assure la poursuite, d'appelons ça, du nationalisme pré-révolutionnaire tranquille dans la Révolution tranquille, et on peut dire qu'à travers lui, la loi 101, ses véritables origines ne se situent pas seulement dans l'imaginaire de 60 et après, mais plongent dans les luttes les plus anciennes du peuple canadien français.
Ah oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui va assumer l'héritage des luttes pour la défense du français telle qu'elle a été conduite au travers des siècles et au travers, bien sûr, la revue depuis sa naissance. Et c'est quelqu'un qui va progressivement réaliser une jonction entre le néo-nationalisme et le projet culturel ancien. Il va faire de la langue française le socle, véritablement, de ce néo-nationalisme-là. Et pour lui, ça se fait dans la continuation et dans la continuité des luttes anciennes. Et il aura réussi à faire la transition entre la défense de la langue française dans une logique minoritaire et la promotion du français comme langue commune, comme langue officielle, et langue de la majorité.
la figure d'Angers va peu à peu disparaître. Il y a un article qui est consacré à Angers dans le numéro, bien évidemment. Va peu à peu disparaître et il va laisser quelques derniers entretiens dans les années 90. Mais un des dernières grandes interventions publiques de François-Albert Angers, c'est quand Jacques Parizeau devient chef du Parti québécois en 88. Et à son congrès d'intronisation, disons ça comme ça, il demande à François-Albert Angers de le présenter, de faire un témoignage le concernant. Est-ce qu'on doit voir là, chez Parizeau, une forme de conscience du rôle historique de François-Albert Angers dans le combat national ou une forme simplement de fidélité à son vieux maître? Est-ce que c'est la dernière grande intervention de François-Albert Angers dans notre vie collective?
C'est pas la dernière. Il fera ensuite quelques interventions, quelques entrevues.
Notamment dans l'histoire du Québec au 20e, les cahiers d'histoire du Québec au 20e siècle.
Oui. Et ce sont des entrevues qui sont encore d'une brûlante actualité. Mais la grande contribution que fait Angers à ce moment-là, c'est d'accepter la gratitude de Jacques Parizeau. C'est tout à l'honneur de Parizeau, non seulement d'avoir été fidèle à son vieux maître, mais d'avoir témoigné qu'il ne s'était pas fait en Angleterre, qu'il ne s'était pas fait lui-même, mais qu'il devait à ses devanciers, au premier rang desquels se trouve François-Albert Angers, qu'il devait une inspiration et une, on dirait aujourd'hui, un héritage qu'il avait et qu'il se faisait le devoir de poursuivre. Et à cet égard, François-Albert Angers fait quand même quelques rappels importants à cette occasion-là.
D'ailleurs, c'est un discours qui est paru dans l'Action nationale.
Oui, bien sûr, puisque François-Albert Angers aura écrit des centaines d'articles dans la revue. Je crois que c'est le plus grand... il est l'auteur du plus grand nombre d'articles dans la revue dans ce siècle.
Alors, Robert Laplante, nous passons à la pause pour quelques instants et nous revenons pour poursuivre l'examen de ce numéro du 100e anniversaire de l'Action nationale. Donc, de retour, chers amis, dans quelques instants, à la vie des idées.
Vous écoutez Radio VM.
Alors, chers amis, nous sommes de retour à La Vie des idées avec Robert Laplante, qui est directeur de la revue L'Action nationale, que je reçois aujourd'hui pour parler principalement du numéro spécial de l'Action nationale consacré à son 100e anniversaire 1917-2017, une des plus vieilles revues de langue française, certainement la plus vieille revue de langue française en Amérique. Un dossier, un numéro spécial en fait, qui permet de faire un peu le bilan du nationalisme au Québec, à tout le moins un bilan intellectuel du nationalisme au 20e siècle, de nos réussites, de nos échecs, le portrait de quelques figures importantes, le bilan de certains combats, la question de la langue, la question économique, la question des régions. Alors, Robert Laplante, nous avons parlé dans la première partie de grandes figures associées à l'histoire de la revue. Dans le numéro spécial qui nous est présenté ici, on cherche aussi à faire un bilan, appelons ça, de certains des grands dossiers dans lesquels la revue s'est engagée. La pensée économique, le combat pour la langue. Et aussi un texte de Pierre Séry, si je ne me trompe pas, consacré au nationalisme de l'Action nationale et aussi, on pourrait dire, avec ses différences avec le nationalisme des partis politiques souverainistes d'aujourd'hui. Si on veut comprendre la singularité du nationalisme de l'Action nationale, disons ça ainsi, dans le paysage intellectuel et politique québécois depuis la Révolution tranquille, plaçons l'Action nationale dans le Québec d'après la Révolution tranquille, quelle est la singularité du nationalisme de l'Action nationale dans un Québec où tout le monde cherchait une nationaliste à sa manière?
C'est une vaste question, mais je dirais que si on essaie d'en identifier quelques traits fondamentaux, le premier, bien entendu, c'est toujours celui de dire que la singularité et le fondement du nationalisme et de l'indépendantisme, c'est l'attachement à la langue française. C'est indubitable. Et bien sûr, François-Albert Anger aura incarné ça. C'est le père du mouvement Québec-Français. C'est lui qui va conduire les grandes batailles contre la loi 63. C'est lui qui va semer les germes de ce grand mouvement social qui va conduire à l'adoption de la loi 101. Ça, c'est, je dirais, le premier volet culturel du nationalisme tel que du combat national tel que l'a conduit la revue. Le deuxième volet, et malheureusement, dans le numéro, il fallait choisir et les circonstances sont toujours cruelles dans ces matières, c'est vraiment la culture. Cette idée que on ne peut pas ramener notre différence et notre progrès à la seule dimension de la langue, même si on la reconnaît pour fondamentale. Cette ambition de développer un point de vue sur le monde va couvrir autant l'expression artistique que la réflexion sur la place du Québec dans le monde, sur la façon dont on peut s'interpréter dans le monde. Et pour les artisans de la revue dans les années 60 en particulier, ça a commencé vers la fin des années 50, entre autres avec les contributions de Jean-Marc Lévé, c'est indispensable d'avoir un point de vue sur le monde. C'est une des conditions d'existence d'une nation. Donc ça va beaucoup teinter le développement du mouvement national dans ces années-là. Là où l'Action nationale va se distinguer, et l'article de Pierre Séré ouvre quelques pistes là-dessus, c'est sur cette volonté de construire partout les institutions dans le registre de la nation. Je suis d'accord avec lui, c'est un propos auquel je fais écho dans le texte de présentation, c'est là où la revue et les partis politiques se sont véritablement distingués, pour ne pas dire séparés.
Et de quelle manière?
La proposition qui traverse le siècle dans l'Action nationale est celle de configurer ou de reconfigurer les institutions autour du brevet national en prenant acte d'une chose, le régime britannique a façonné des institutions dans lesquelles il y a, pour ainsi dire de façon intrinsèque, une pensée minoritaire. L'Action nationale cherche partout à reconfigurer les institutions pour que la logique qui s'y exprime soit celle de l'intérêt national, soit celle de la construction d'un bien commun dont la référence est une pensée majoritaire.
Donc, on pourrait dire que les institutions qu'on a héritées de la conquête et ensuite de l'histoire constitutionnelle canadienne sont des institutions qui ne permettent pas à la nation de penser ses intérêts ou qui la contraignent à la penser de manière mutilée, diminuée et ainsi de suite. Et vous nous dites que ça, donc l'Action nationale fait le procès du régime de ce point de vue, mais que les partis souverainistes n'ont pas intériorisé pleinement cette réflexion.
Absolument. Ils se sont égarés dans les chicanes de compétences entre Québec et Ottawa, entre, au fond, les institutions du régime canadien. L'Action nationale cherchait à prendre le contre-pied de ce régime et à refonder, et c'est pourquoi quelqu'un comme François-Albert Anger ou comme Jean-Marc Léger ou comme le père Arès, à bien des égards, cherchait désespérément à faire des institutions québécoises des œuvres originales, avec une conformité non pas à ce que permettait le Canada, aux interstices qu'on pouvait occuper, mais à s'y donner un véritable espace d'autonomie. Alors, on sait que le travail, par exemple, d'un Jean-Marc Léger à l'égard de la francophonie, à l'égard de l'élargissement de la voie internationale du Québec, s'inspire directement de cette volonté d'être présent pour soi et dans le monde sous son nom propre. Le mouvement souverainiste tel qu'il s'institutionnalise particulièrement à partir du milieu des années 70, donc au moment où le Parti québécois s'installe au pouvoir, va tourner le dos à cette approche.
Comment expliquer ça?
Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, mais le plus fondamental sur le plan politique, c'est que ça aurait contraint l'action du gouvernement du Parti québécois à mener un combat de légitimité sur tous les fronts, ce qui supposait de s'inscrire dans une logique conflictuelle permanente. Le Parti québécois s'est heurté, dès son arrivée au pouvoir, à ce dilemme-là, avec la loi 1. On oublie toujours c'est l'ancêtre de la loi 101. La loi 1 ouvrait le procès de légitimité. Battu en brèche par le régime, le Parti québécois en a fait une mouture qui était déjà un compromis qui a été sacralisé, la loi 101.
C'est quoi les grandes différences entre la loi 1 et la loi 101, par exemple?
Ben, par exemple, le fait que l'Assemblée nationale soit obligée de produire ses lois en anglais et en français, le fait que les institutions et les définitions des droits des institutions faites par la Constitution de 1867 devaient s'appliquer, en particulier en matière de commissions scolaires, de droits linguistiques, des institutions des minorités. Et ça n'aura pas suffi, on le sait, malgré le fait que le Parti québécois, le gouvernement du Québec, ait reculé là-dessus. Il n'y aura eu de cesse d'attaquer continuellement les fondements juridiques de la loi. Ouvrir ce conflit de légitimité aurait supposé que dans tous les projets de loi, que dans toute l'action gouvernementale, on débusque les empiètements, qu'on débusque les logiques tordues et les compromis inadéquats auxquels le régime condamnait l'action. Ça aurait supposé un travail de mobilisation de l'ensemble de la nation. Ce travail-là, il était loin d'être accompli quand le Parti québécois a pris le pouvoir, ce qui reste, on le sait aussi, un accident de la carte électorale. Donc, jusqu'à un certain point, le parti, le gouvernement et la culture politique du mouvement n'étaient pas capables de porter un conflit aussi permanent que cela l'aurait exigé. Et ça va être la cause, je crois, de l'ensemble des difficultés que va connaître la gouverne du Parti québécois pendant les 4 mandats qu'il aura accomplis à partir du milieu des années 76, du milieu des années 76, pardon. C'est fondamental parce que les municipalités, les MRC, tous les lieux que le Parti québécois va tenter d'investir ne l'auront été que d'une manière très épisodique, inconstante et relativement velléitaire. Alors que dans la stratégie et dans la pensée politique que l'Action nationale soutenait, il aurait fallu qu'il y ait de l'indépendance et des indépendantistes partout, dans toutes les institutions, pour non seulement des raisons partisanes, mais pour des raisons de cohérence politique. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. Résultat des courses, on le voit maintenant, les forces fédéralistes ont très peu de militants. Mais elles ont fait un usage stratégique. Ah, bien sûr, c'est facile pour ces forces-là, puisqu'elles sont appuyées par l'État canadien. Ils ont fait un usage stratégique de ces ressources et elles contrôlent les institutions clés. Ils n'ont pas besoin de militaires.
Oui, bien sûr.
Alors, ce contrôle fait en sorte que l'action d'un gouvernement indépendantiste peut être entravée par... par l'ensemble des institutions qui devraient pourtant être au service de l'État du Québec.
Donc, si je vous comprends bien, la différence de fond, on pourrait dire, entre l'Action nationale et les partis souverainistes, c'est que les partis souverainistes avaient, sans mauvais jeu de mots, une conception trop étroite de l'Action nationale.
Ah oui, clientéliste pour l'essentiel. Une conception de l'action politique entièrement façonné par les préceptes du marketing politique. La souveraineté, l'indépendance, c'est une option. Ce n'est pas un combat. Donc, ça, c'est pour le volet conflit de légitimité. Mais également, c'est une conquête. Donc, c'est un effort pour façonner les institutions et non pas pour s'assurer que un peu partout, il y a des vents qui pensent qu'on peut saupoudrer un peu d'options.
Je vous ai souvent entendu dire en conférence, d'une manière ou de l'autre, qu'une revue qui a un siècle, qui a 100 ans, a de bonnes années, de moins bonnes années, des périodes fécondes, des périodes plus d'assèchement. Depuis la Révolution tranquille, encore une fois, on pourrait dire que la Révolution tranquille, l'Action nationale nous a conduit à la Révolution tranquille avec son programme intellectuel. Une fois que le Québec est entré dans une transition, une mutation, le rôle de l'Action nationale lui-même a été objet de questionnement. Quelles ont été, dans quelles circonstances l'Action nationale a-t-elle eu le plus d'influence intellectuelle sur la vie des idées, sur la vie politique, sur la vie nationale? Quels ont été les moments où l'Action nationale a été capable véritablement d'être un foyer de réflexion particulièrement vivant? Quelles sont les conditions, autrement dit, pour que l'Action nationale, dans la vie publique, trouve l'écho qu'elle mérite probablement?
Bon, écoutez, sur un siècle, c'est inévitable qu'il y ait des moments forts, des moments faibles. Je le disais en boutade lors du lancement du numéro que nous célébrons une centenaire, pas une sainte. Alors, la revue a perdu. La revue a perdu quelques batailles. Elle en a mal mené certaines. C'est inévitable. Cependant, il y a, je pense... au moins trois grands moments où la revue a été d'une grande influence. C'est d'abord dans les années 20, avec ses grandes enquêtes. Ensuite, avec son bref moment, mais très intense, avec André Laurendeau et le Bloc populaire. Là, ça a été très fort. Le troisième moment, c'est celui qui s'étale de façon un peu plus diffuse de la fin des années, du milieu des années 50 jusque à l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. Où là, vraiment, on va assister d'abord à la montée du sentiment majoritaire auquel elle aura largement contribué, à une représentation majoritaire de la nation qui également se traduit par le combat linguistique où là, vraiment, elle aura réussi cette mobilisation. Mais dans le fond, ça aura été rendu possible ça parce que la revue, pendant ces années-là, va être véritablement le périodique de référence auquel vont se nourrir les mouvements sociaux qui traversent la société. Ça va, jusqu'à un certain point, prendre une forme symbolique et institutionnelle avec les États généraux du Canada français, où, au fond, tout ce qui bouge dans la société canadienne française, au Québec et hors Québec, va participer à cet effort intense de réflexion. C'est le moment où la revue va devenir indépendantiste de façon non seulement ouverte, mais je dirais avec une volonté d'intégration encore plus forte de sa pensée.
Oui, oui, oui.
Et c'est le moment aussi, bien sûr, où va se produire une déchirure terrible qui aura été vécue à l'interne dans les équipes de rédaction comme une véritable tragédie, la revue va, avec les États généraux, être au cœur de la redéfinition, certains diront l'abandon, des minorités, parce que, bien entendu, c'était le cœur de la mission première, de l'élan qui avait réuni les minorités et le Canada français tout entier.
Ouais, ouais.
Et alors là, l'indépendance va dresser va provoquer une déchirure que va utiliser abondamment, évidemment, l'État canadien et que vont utiliser les adversaires de l'indépendance dans un grand effort de culpabilisation.
Quand on pense à l'action nationale des dernières décennies, certaines figures émergent encore une fois. Tantôt, on a évoqué comme le chanoine Grou, Mainville, Angers. Une autre figure, peut-être un peu moins connue, mais qui a joué un grand rôle dans la transformation de la revue dans les années 80, je ne me trompe pas, et surtout 90, c'est Rosaire Morin. Figure qui était probablement connue de toute une génération, un nom qui amenait les gens à cligner de l'œil à la manière, oui, nous le connaissons très bien, mais qui n'existe pas dans la conscience collective d'une manière ou de l'autre, ou à tout le moins de manière tout à fait diffuse.
Oui.
Parlez-nous un peu de cette grande figure à qui vous avez succédé, d'ailleurs, à la direction de la revue.
Oui, j'ai eu l'honneur et le privilège de travailler avec lui de façon très intensive pendant une quinzaine d'années. Rosaire Morin, c'est l'artisan des États généraux du Canada français. C'est l'artisan et largement également le penseur, avec son cousin, Jacques-Yvan Morin, de cette initiative qui allait donner une impulsion probablement décisive au mouvement indépendantiste et éventuellement à la naissance du Parti québécois. Rosaire Morin, c'est un militant de la première heure qui a fait beaucoup de travail d'organisation dans l'ordre de Valcartier.
La patente.
Dans la patente, effectivement, qui était précisément ce mouvement typique des luttes minoritaires et duquel il se sera lui-même affranchi. Et il aura été l'homme de l'intendance de la stratégie de la reconquête économique, véritablement. C'est un organisateur exceptionnel qu'on va trouver derrière les grands combats économiques du Québec. Il aura été, par exemple, conseiller spécial du président d'Hydro-Québec. Il aura réalisé de nombreuses missions plus ou moins ouvertement reconnues pour les grands leaders des principales institutions économiques. Société générale de financement, caisse de dépôt, etc. Et il va jouer, au fond, un rôle très discret, trop discret aux yeux de certains, d'ailleurs, un rôle très discret dans la montée des institutions. Il aura été, par exemple, un des grands artisans de l'expansion du mouvement coopératif. Mmh. Il aura été un des fondateurs d'à peu près 400 caisses populaires. C'est un homme qui avait un réseau extraordinairement étendu et une connaissance très fine du Québec. Donc, c'est vraiment un homme entièrement dévoué à la réalisation pratique de la stratégie de reconquête, dont, par ailleurs, il connaissait bien les tenants et aboutissants intellectuels. Et il va prendre la direction de la revue au moment où celle-ci vacille véritablement.
Dans les années 80?
Oui. Au moment où, au fond, les combats à l'interne provoqués, les tensions provoquées par l'abandon du statut de minoritaire, l'adhésion à un projet indépendantiste plus fermement affirmé et aussi les transformations du paysage intellectuel ont placé la revue en très grande difficulté. Son public se renouvelle pas. Elle n'est plus une source de référence intellectuelle pour le Parti québécois triomphant, si on peut dire. Donc, elle est reportée à la marge, véritablement.
À ce moment-là, l'Action nationale est une revue qui a, si on la décrivait intellectuellement, son profil dans ces années de vache maigre, c'est une revue qui redevient traditionnaliste, une revue un peu d'arrière-garde.
Oui, sûrement, d'un grand éclectisme avec une difficulté à intégrer sa pensée, avec un projet éditorial échevelé, dans le fond fracturé, et un éventail de collaborateurs qui s'est singulièrement rétréci.
Et Rosaire Morin va donner une nouvelle impulsion à la revue.
Ah, tout à fait. Il va le faire en toute connaissance de cause, ne pouvant se résoudre à la laisser mourir, considérant également qu'il n'était pas possible de mener un combat indépendantiste sans avoir un grand périodique de référence, il va l'entreprendre de la restaurer, de lui donner un nouveau souffle. C'est pas une entreprise fortuite dans son cas. Il avait été, par exemple, un des artisans de la naissance et, pour un temps, de la force intellectuelle de la revue Force, la revue d'Hydro-Québec, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était. Il avait donc une cohérence dans sa pensée. Il était convaincu que l'action intellectuelle était essentielle. Alors, il va travailler à reconstruire la revue, lui redonner des moyens financiers et intellectuels en renouvelant et en élargissant progressivement ses réseaux de collaborateurs, en lui redonnant un lectorat qui va aller chercher littéralement un par un, et replacer la revue au centre du mouvement, au centre intellectuel du mouvement indépendantiste, pas au centre du mouvement politique partisan. La revue, je l'ai toujours déploré, n'a jamais, par exemple, recueilli l'abonnement d'une majorité de députés péquistes, ce qui était quand même assez inexplicable. Il me semble que ça n'avait pas de sens que un parti comme celui-là n'ait pas ses ressources intellectuelles. Ça aurait été compréhensible qu'ils s'en donnent d'autres. On pourrait dire, bon, ça va, ils ont fait un autre choix, mais ça ne s'est pas passé. Alors donc, il fallait véritablement faire l'effort de recadrer l'héritage dans le projet indépendantiste tel qu'il évoluait. Et c'est sa grande contribution.
Alors, il nous reste environ 2 minutes à l'émission. L'Action nationale a encore un programme de travail pour plusieurs années. Je n'en doute pas. Quelles sont les grandes lignes qui aujourd'hui définissent appelons ça le travail d'enquête intellectuelle de l'Action nationale, d'un numéro à l'autre? Quel est le flambeau qui permet de mener le travail, de conserver sa cohérence?
Ah, ben toujours cette recherche d'une formulation partagée d'une doctrine de l'intérêt national. Vraiment amener les Québécois à comprendre comment le régime les déporte continuellement à la périphérie d'eux-mêmes, que ce soit en matière de langue, de culture ou d'économie. Dans l'ensemble des volets qui font la vie collective, il faut amener les Québécois à penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est un vaste programme qu'il se décline numéro après numéro en faisant réaliser que tous les aspects de notre vie sont influencés, déterminés par les conditions que nous impose la domination. Le Québec n'est pas libre. Il est sorti de l'indivance, c'est un fait, mais il n'est pas libre de définir les finalités de son vouloir vivre collectif. Et tant qu'il ne sera pas libre, il faudra combattre pour faire tomber les carcans.
Alors, Robert Laplante, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui à La Vie des idées. Et j'invite évidemment tous nos auditeurs à se procurer ce formidable numéro « L'Action nationale 1917-2017 » et évidemment à vous abonner à la revue. On peut le faire sur le site web de la revue. Robert Laplante, merci.
C'est un plaisir. Au revoir.